Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 17 octobre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran a augmenté à 300 km la portée du système antiaérien Bavar 373. 100 terroristes ont été tués dans le nord-ouest de la Syrie et l'Algérie et le PEP pleinement confiants quant aux conséquences des dernières réductions de la production de pétrole. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le commandant de la force de défense aérienne de l'armée iranienne, Alireza Sabahi Fard, a déclaré dimanche 16 octobre que l'Iran a augmenté à 300 km la portée opérationnelle de son système solaire de défense anti-aérienne. La montée en gamme du système national est proportionnelle aux menaces et l'Iran a d'ores et déjà testé le système à la nouvelle portée, a-t-il affirmé dans une académie militaire à Téhéran. En août 2019, l'Iran avait dévoilé le système de défense mobile conçu et fabriqué au niveau national avec une portée opérationnelle de 200 km pour intercepter les cibles hostiles pénétrant dans l'espace aérien iranien. Nous surveillons les ennemis dans leur base. La portée de nos radars s'étend sur des milliers de kilomètres, a noté le commandant iranien. Le système de missiles est doté de deux radars de détection et d'engagement qui peuvent résister à la guerre électronique et aux bombes électromagnétiques. En outre, ils sont capables de détecter les missiles anti-radiation utilisés pour contrer les défenses aériennes, employant des missiles d'une portée maximale de 300 km. Le système est capable de détecter et de cibler les avions ennemis au-delà des frontières iraniennes, de détecter jusqu'à 300 cibles en même temps, d'en suivre 60 et d'en engager 6. Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré dimanche que le président américain Joe Biden s'immisçait dans les affaires d'État de l'Iran en soutenant les émeutes dans le pays. Samedi, Joe Biden est ingéré pour la énième fois dans les affaires de l'État iranien en soutenant les émeutes, comme il le fait depuis le déclenchement des récents événements en Iran, a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanani. L'Iran n'a jamais cédé aux sanctions cruelles et aux menaces vaines des États-Unis et ne sera pas davantage déstabilisé par sa politique interventionniste et par cette vaine campagne, a ajouté M. Kanani. La veille, M. Biden a déclaré qu'il était surpris par le courage des gens qui descendent dans la rue pour protester en Iran. « Vos responsables américains avaient l'habitude de pêcher en eau trouble. Depuis le coup d'État de 1953 jusqu'à aujourd'hui, la politique anti-iranienne du gouvernement américain est restée gravée dans nos mémoires », a dit M. Kanani, le porte-parole de la diplomatie iranienne. Une première raffinerie de pétrole traitant du pétrole brut iranien à l'extérieur du pays a commencé ses activités selon un communiqué du ministre iranien du pétrole, Javad Ouji, qui a déclaré que le projet au Venezuela serait reproduit dans d'autres parties du monde. M. Oji a déclaré dimanche 16 octobre que l'Iran avait commencé à traiter quelques 100 000 barils par jour de brut produit dans les champs pétrolifères iraniens de la raffinerie vénézuélienne d'El Palito. Il a déclaré que le projet s'était concrétisé grâce aux efforts du département du carburant du ministère iranien du pétrole. El Palito est situé au centre du Venezuela. Le département du carburant du ministère iranien du pétrole, NIORDC, a signé en mai un contrat de 116 millions de dollars avec la société pétrolière politique vénézuélienne, PDVSA, pour réparer et agrandir la raffinerie. L'Iran et le Venezuela ont cherché à étendre leurs liens économiques et énergétiques ces dernières années dans le but de contrer les sanctions américaines qui ont ciblé leur exportation de pétrole brut. L'Iran a par le passé fourni de l'essence, du condensat, des pièces de raffinerie et une assistance technique au Venezuela en échange d'expéditions de pétrole lourd du pays. Cela survient alors que le NIORDC aurait obtenu un contrat pour démarrer les travaux de la plus grande raffinerie du Venezuela, la Paraguana. Des rapports ont également suggéré que le ministère iranien du pétrole envisage des projets similaires dans d'autres pays d'Amérique latine, y compris au Nicaragua. En Syrie, les forces aérospatiales russes ont lancé des frappes aériennes sur un camp d'entraînement militant et un poste de commandement de formation armée terroriste, éliminant au moins 100 terroristes. C'est ce qu'a déclaré le dimanche 16 octobre le major général Oleg Yegorov, chef adjoint du centre du ministère russe de la Défense pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie. Il a annoncé que les affrontements font rage entre les forces armées dans les deux régions d'Afrin et d'Azaz, dans les régions du nord-ouest de la Syrie, qui sont sous le contrôle de la Turquie. Afin de faire face aux groupes terroristes, l'armée de l'air russe a bombardé une base d'entraînement des terroristes située à 1 kilomètre au nord-est de la ville de Ratma et de leur centre de commandement. A-t-il dit, ajoutant que des entrepôts d'armes, des munitions, le quartier général du camp et 15 véhicules des terroristes qui étaient équipés de mitrailleuses lourdes avaient été détruits dans des frappes des forces aérospatiales russes. Le groupe terroriste Tahrir al-Sham a pris le contrôle de la ville d'Afrin après la fin du délai de 6 heures. Le 3e corps de l'armée nationale syrienne a quitté Afrin et au même moment, des convois militaires de Tahrir al-Sham sont arrivés au centre d'Afrin. La livraison al-Hamz. La division Al-Hamza, en collaboration avec la division Suleiman Shah, qui était soutenue par HTC, le groupe Tahrir al-Sham, dans la lutte contre le 3e corps, a réussi à prendre le contrôle de plusieurs points de contrôle et du passage de Amaran, dans la campagne de Jarablus, située dans le soi-disant bouclier de l'Euphrate, à l'est du gouvernorat d'Alep. Le HTC a avancé rapidement dans les banlieues nord et sud d'Afrin et atteint le poste frontière d'Al-Hammam dans le nord-ouest d'Afrin afin de surplomber le terminal frontalier le plus important entre Afrin et la Turquie. Tahrir al-Sham a pris le contrôle du poste frontière d'Atma dans le nord syrien avant de s'emparer de toutes les frontières communes entre la Syrie et la province de Kilis en Turquie. Dans le même temps, ses membres ont attaqué les zones autour de la ville d'Al-Bab, capturant à nouveau les zones qu'ils avaient perdues les jours précédents. L'Algérie et l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, se sont déclarées dimanche à Alger pleinement confiantes quant aux conséquences qui découleront de la dernière décision prise par l'OPEP et ses alliés de réduire la production du brut sur le marché international, a indiqué le ministère algérien de l'Énergie et des Mines dans un communiqué. Le secrétaire général de l'OPEP, Aïssam Al-Raïs, en visite en Algérie, a discuté avec le ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, de la situation sur le marché pétrolier international et de ses perspectives d'évolution à court et moyen terme. Face aux incertitudes qui pèsent sur le marché pétrolier international depuis plusieurs semaines, Messieurs Arkab et Al-Raïs se sont dit pleinement confiants quant aux retombées positives de l'accord du 5 octobre 2022 adopté à Vienne, qui vise à réduire la production totale de 2 millions de barils par jour à compter du 1er novembre 2022, a précisé le ministère. Par ailleurs, les deux hommes ont évoqué les défis majeurs auxquels l'industrie pétrolière mondiale fait face, ainsi que les moyens de les surmonter par un renforcement de la coordination et du rôle stabilisateur du marché pétrolier que joue l'OPEP et ses alliés rassemblés sous le nom d'OPEP+. Les autorités somaliennes vont fermer les entreprises, les magasins et autres sociétés qui ne respectent pas l'ordre du gouvernement fédéral de ne pas payer d'impôts ou de faire autre versement aux structures mises en place par le groupe terroriste Al-Shabaab. C'est ce qu'a déclaré le ministre somalien du Commerce et de l'Industrie. Nous allons annuler les licences des sociétés convaincues de liens financiers avec Al-Shabaab, a déclaré le ministre cité par le site d'actualité Somali Guardian. Nous avons par ailleurs l'intention de confisquer les entreprises travaillant pour le compte des terroristes. Le ministre a indiqué que les autorités avaient identifié 4 sociétés d'import liées aux structures d'Al-Shabaab. Les terroristes pouvaient ainsi percevoir les droits de douane dans le port de Mogadiscio pour financer leurs activités. Le groupe Al-Shabaab a été formé en Somalie en 2004. Ces terroristes organisent régulièrement des attaques depuis 2008. Le groupe contrôlait un large territoire en 2010, mais a été repoussé à l'été 2011 hors de Mogadiscio. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Belgorod vengé à Al-Tanf. Qu'est-ce qui empêcherait le commandant en chef des forces russes en Syrie d'agir de la même manière qu'agissent en ce moment les atlantistes à Belgorod? Selon une toute dernière information, les habitants continuent à signaler des explosions, lesquelles supposent que les Américains, trop remontés contre le tournant asymétrique que prennent à la faveur des drones et des missiles tactiques la guerre en Ukraine, sont là en phase de rendre l'appareil et de pilonner copieusement le territoire russe. Cet après-midi, le territoire de Belgorod a subi l'un des bombardements les plus violents en provenance d'Ukraine. Nous parlons des lancements de nombreux missiles dont le type et la nature n'ont pas encore été clarifiés. Une partie des missiles ont été neutralisés en les interceptant avec des systèmes de défense aérienne. L'un a détruit et endommagé des infrastructures urbaines, laissant également au moins 2 victimes. Plusieurs munitions ont d'abord été tirées sur le territoire de Belgorod, après quoi des bombardements massifs ont commencé. À l'heure actuelle, les résidents locaux signalent au moins 20 explosions. Cependant, nous parlons également du travail des équipements de défense aérienne. Les habitants de Belgorod enregistrent également de grands cratères d'explosions et en outre, un certain nombre de sources signalent des explosions en direction de l'aéroport de Belgorod. Le nombre exact de cibles abattues n'est pas encore connu. Cependant, selon les citoyens, au moins 10 antimissiles ont atteint avec succès des cibles. En effet, entre d'une part Belgorod, que l'axe US-OTAN frappe à la fois à coups de armes AGTMS et de HIMARS, et ce, sans façon, ce qui fait de son acte une totale fuite en avant et le territoire syrien de l'autre, il y a en ce moment un point commun, l'activité de la DSA, et sur ce point-là, le camp d'en face a tout à envier. Quelques 10 missiles sol-air AGTMS interceptés sur un total de 20, cela veut dire un taux d'interception de 50%, soit infiniment meilleur que tout ce qu'a pu faire cette semaine la DSA US-OTAN-Ukraine face aux combinaisons drone-missiles russes ou encore un taux d'interception semblable à DSA syrienne qui tout au long de l'été a cassé comme des noix les missiles air-sol des Lida d'Israël. Au point de pousser les sionistes à changer non seulement leur modus operandi, de fond en comble, à savoir placer leurs F-16 dans des corridors internationaux au lieu de les fixer dans le ciel du Liban ou de la Jordanie, mais encore à modifier leur type d'engin faisant appel aux missiles hypersoniques Rampage de 5e génération, Icebreaker ou encore Ice Spice 2000, si ardemment médiatisé, mais là encore avec des taux de succès relativement limités. Au fait, que les Américains le veillent ou pas, il est clair que le ciblage direct du territoire russe finira à mesure qu'il agrandira par se répercuter sur leur contingent en Syrie, surtout que les signes s'en multiplient déjà. Le 12 octobre déjà, des avions de combat des forces aérospatiales russes, VKS, ont effectué une série de frappes aériennes dans la région centrale de la Syrie, les frappes ayant visé les cachettes des cellules des agents daéchistes US à la périphérie de la ville de Ras Afa, dans la campagne méridionale de Raqqa, ou encore plus proche d'Al-Tanf, soit dans la ville d'Al-Sukhna à Homs. Évidemment, il s'agissait pour les Russes de prévoir ce qui vient de se produire il y a de cela deux jours, à savoir cette attaque très meurtrière des agents US contre un bus de l'armée syrienne avec son bilan de 18 soldats tués. Mais puisque les Américains continuent malgré les frappes russes à reconstituer ces mêmes cellules, il y a des voix qui réclament des frappes directes contre Al-Tanf. Car, à regarder de plus près, Belgorod n'aurait jamais pu être pris si sauvagement pour cible comme l'a été le pont de Kerch sans appui satellitaire direct US-OTAN, et le fait de vouloir le renier et le mettre sur le compte de l'armée ukrainienne, comme l'a fait le président Poutine dans le cas de la Crimée, ne ferait qu'emparer les choses. La nécessité de créer un levier de pression contre les États-Unis qui est pour le décor le devant, c'est d'autant plus perceptible que depuis quelques jours seulement, on assiste à l'émergence des soldats atlantistes en plein théâtre syrien.
Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat de Presse TV français en ce samedi 15 octobre. Nous sommes en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran. Le ministère iranien des Affaires étrangères a vivement condamné les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron concernant les affaires internes de l'Iran, les qualifiant de menaces et d'ingérence directe et claire dans les affaires iraniennes. En effet, les propos d'Emmanuel Macron sont une ingérence et ils ont servi à encourager des personnes violentes en Iran, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Alors, que cherche la France, mais surtout l'Union européenne, l'Occident en général, en Iran, surtout durant ces dernières semaines avec les émeutes, les manifestations qui se sont transformées en des émeutes. On en parlera avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous invite à regarder un reportage à ce sujet. On revient tout de suite après.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné ce vendredi les propos du président français Emmanuel Macron, qui ne cesse de s'ingérer dans les affaires iraniennes. Les propos d'Emmanuel Macron sont une ingérence et ils ont servi à encourager des personnes violentes et des contrevenants, a déclaré le porte-parole du ministère Nasser Kanani dans un communiqué. Nasser Kanani a déclaré qu'il était surprenant que la France condamne les forces de sécurité iraniennes qui ont dû gérer des personnes violentes et des émeutiers, alors qu'elles menacent d'utiliser la force en réponse à des grèves des salariés dans le secteur du pétrole et du gaz en France. Il s'agit d'une hypocrisie manifeste qui prouve une fois de plus que les droits de l'homme dans le dictionnaire de nombreux gouvernements occidentaux prétentieux ne sont rien de plus qu'un jouet et un outil pour atteindre des objectifs politiques et s'immiscer dans les affaires d'autres pays, a-t-il poursuivi. Selon Nord News, site projeté sur sécuritaire en Iran, l'arrestation de 5 Français, dont 2 agents de la DGSE, dans les rangs des fauteurs de troubles de ces dernières semaines en Iran. Troubles qui, rappelons-le, ont fait 41 morts dans les rangs des policiers, ce qui en dit long sur les vrais desseins de leurs planificateurs, n'ont provoqué non seulement des remords côté français, mais encore des tentatives de rattrapage complètement folles. Ainsi, la DGSE aurait prémédité des kidnappings visant des ex-autorités politiques ou militaires, voire judiciaires iraniennes, qu'elle projetait de convier dans un pays européen tiers avant de procéder à leur arrestation arbitraire et à tenter un échange avec les 2 agents français retenus en Iran. Si ce scénario particulièrement grotesque pourrait à la limite être perçu comme l'œuvre d'un appareil de renseignement prêt à tout pour récupérer ses pions, il en est tout autre de cet autre scénario de la DGSE visant directement la sécurité nationale iranienne.
Voilà, c'est le sujet sur lequel nous allons nous pencher durant cette émission de débat. Je dis bonjour et bienvenue à André Chamy, juriste international, qui est en direct avec nous depuis la France, Alsace. Maître Chamy, est-ce que vous m'entendez? Bonjour.
Bonjour, je vous entends parfaitement.
Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, maître, quel regard portez-vous sur les dernières évolutions en Iran, mais notamment la prise de position de l'Occident en ce qui concerne ce qui se passe en ce moment en Iran et cet intérêt dont l'Occident, en fait, y trouve dans ce qui se passe en ce moment en Iran?
Vous savez, la question du droit de manifester est un droit qui pose des difficultés à travers le monde, que ce soit aux États-Unis. Nous nous rappelons toujours de ce qu'on appelait les manifestations contre Wall Street. Quand on prend les Gilets jaunes en France, quand on prend les mouvements similaires en Italie ou en Espagne, c'était quelque chose à un moment donné qui était catastrophique et qui a duré des mois et des mois avec des actions de violence. Et évidemment, les forces de sécurité ayant répondu avec la même violence, les Champs-Élysées en sont le témoin, si j'ose dire, pendant ce qu'on a appelé les manifestations des Gilets jaunes. À tel point qu'il y a eu des atteintes aux propriétés, aux personnes. Et à ce moment-là, évidemment, la France n'a pas dit qu'il fallait interdire les ripostes de la police, n'a pas interdit l'idée de canaliser les manifestants ou même de faire des arrestations parfois violentes et arbitraires contre des gens qui n'étaient même pas impliqués par les manifestations ou bien qui étaient dans les manifestations, mais de manière pacifique. Par conséquent, j'ai envie de dire que chacun balaye devant sa porte au lieu toujours de porter des critiques alors qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement, c'est-à-dire quelle est l'ampleur des manifestations, qui sont à l'initiative de ces manifestations-là, parce que partir d'une idée d'un drame humain dont on ne connaît pas encore, en tout cas personnellement, je ne connais pas tous les détails et je ne pense pas que la France en sache davantage, si ce n'est de dire cette fille a été est décédée suite à une bavure policière, sans donner plus de détails, quelles sont les bavures, quelles sont les circonstances, etc. Personne n'en dit plus, sauf que les femmes iraniennes, d'un seul coup, elles voudraient, selon les Occidentaux, se débarrasser du voile, encore que ce n'est pas prouvé, et évidemment, il y aurait des manifestations de femmes qui voudraient se débarrasser de ce régime. En face, nous avons vu des manifestations avec des dizaines de millions de personnes qui disent le contraire. Alors, s'il y a une minorité qui a envie de changer de régime, je veux bien l'entendre, mais à ce moment-là, il faudrait qu'ils me disent pourquoi et quel tort cause le régime à ces gens-là et de quelle manière il faut traiter la question. Est-ce que la violence commise par les manifestants à l'encontre des postes de police, à l'encontre des policiers ou des forces de sécurité, à tel point qu'on a vu des policiers poignardés, des policiers victimes de violence, même des postes qui auraient pu être incendiés ou incendiés, toutes ces actions-là n'auraient jamais été acceptées en Occident. Et bien entendu, on aurait fait à ce moment-là descendre dans la rue toutes les forces de sécurité possibles et imaginables, y compris les plus aguerris, si j'ose dire, pour faire face à ces actions, ou pour ne pas dire à ces exactions des manifestants. En parallèle, est-ce que c'est le rôle des politiques français de commenter ce qui se passe en Iran ? Je veux bien, mais à ce moment-là, il faut qu'on fasse preuve de modération dans les propos et être mesuré et surtout avoir une information suffisante sur ce qui se passe. Mais le dire avec une certaine prétention que moi j'ai tout compris et je sais ce qui se passe et à ce moment-là, j'encourage tel à commettre des exactions contre les forces de sécurité, quitte à ce que à semer le trouble dans ce pays-là, là il y a un pas à ne pas franchir parce que on sait quand ça commence et on ne sait pas que ça se termine. Et surtout, on ne connaît pas je dirais, la nature de ces manifestations-là. C'est pour cela qu'à mon avis, l'ensemble des politiques français ont été imprudents par rapport à cette question-là et ont fait des déclarations hasardeuses par rapport à la situation en Iran et démontrent une méconnaissance de ce qui se passe en Iran et démontrent une méconnaissance d'abord du régime, c'est-à-dire sa solidité et son incrustation au sein de la population et la portée des préceptes de ce régime au sein de la population, c'est-à-dire ce n'est pas parce que vous avez 2 ou 3 ou 10 ou 15 ou même des centaines de personnes qui manifestent par exemple contre le voile que l'Iran subitement est devenu contre le voile. Il y a une question qui peut être posée sur le plan sociétal, mais il y a une volonté de s'attacher de manière définitive, de manière radicale, à la pratique de la religion musulmane, avec tout ce que cela comporte, dont le port de voile, du voile. Par oui. conséquent, la France n'avait pas, en tout cas la France dans la bouche de Macron, n'avait pas à s'exprimer ainsi. Et d'ailleurs, un certain nombre de politiques français, d'hommes politiques et de femmes politiques en France, se sont exprimés, à mon sens, de manière hasardeuse. Je m'attendais à ce qu'ils s'expriment de manière beaucoup plus virulente, par exemple concernant ce qui se passe actuellement dans les territoires occupés, en Palestine occupée. Je n'ai pas entendu une seule phrase, je n'ai pas Exactement. Entendu un seul commentaire, alors que là, il y a des actions réellement graves, il y a des atteintes aux vies, il y a des destructions massives, il y a des arrestations arbitraires, il y a des morts qui sont commises au quotidien, et évidemment, pour l'instant, je n'ai pas entendu le moindre commentaire, et je trouve là, il y a la pratique de ce qu'on appelle la politique du deux poids deux mesures. Ça est regrettable, et à un moment donné, il faudrait y mettre un terme.
Merci pour vos explications, maître. Restez en ligne, nous sommes également en direct depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien. Luc Michel, est-ce que vous m'entendez?
Je suis en ligne depuis plus de 10 minutes, madame, mais il y a des problèmes de communication.
Oui, oui, merci. Merci d'être en ligne. En effet, on a des problèmes de communication, donc merci d'être avec nous. Monsieur Michel, comment interprétez-vous cette prise de position française dans la mesure où maître Chami vient de le dire très bien, en ce qui concerne l'affaire palestinienne, par exemple, on n'a jamais vu des politiciens français s'exprimer sur ces crimes de guerre depuis des années exercés par le régime sioniste en Palestine occupée. Comment se fait-il que les politiciens français sont tout d'un coup inquiets des droits des femmes iraniennes?
Tout d'abord, bonjour à vous et bonjour à maître Chami, à nos téléspectateurs. Il y a une immense hypocrisie en Occident. Et, maître Chami rappelait il y a quelques minutes la répression des gilets rouges. On a déployé pour la première fois les blindés de la gendarmerie dans Paris. Il y a eu des gens éborgnés, des mains coupées, des centaines d'arrestations. En Belgique, il n'y a eu que deux manifestations des gilets jaunes. Les gens ont été arrêtés par centaines et ils ont été traduits devant les tribunaux. Mais à côté de ça, l'Occident soutient depuis 25 ans des révolutions de couleur un peu partout dans le monde. Depuis quelques mois, il y a une nouvelle vague de révolutions de couleur en Eurasie, contre la Russie, contre le Bélarus, contre la Chine à Hong Kong, contre le Nicaragua, contre le Venezuela et maintenant contre votre pays, l'Iran. Tout cela est préparé depuis 6 mois. Les réseaux de George Soros, les vitrines légales de la CIA mobilisent leur réseau et une nouvelle vague de révolution de couleur se prépare en Afrique. Elle est soutenue par le State Department, par le Quai d'Orsay, par les vitrines légales de la CIA, par un nouveau centre de propagande américain qu'on appelle le Global Engagement Center. Les agents provocateurs des services secrets occidentaux se déploient dans toute l'Afrique. Les provocateurs des fondations de l'OTAN, les faux panafricanistes et les faux présidents élus, comme Kanto au Cameroun, Kodjo au Togo, ou par exemple encore Jean-Pico au Gabon. C'est une vague générale. Nous avons vu ce qu'on appelait le nouvel Moyen-Orient de George Bush 2, qui allait en fait du Maroc à l'Asie centrale. Puis il y a eu le printemps arabe en 2011, Obama. En 2014, le printemps africain d'Obama toujours, qui était la version noire du printemps arabe. En 2018, on a eu la nouvelle politique africaine de Bolton. C'est maintenant le tour de Joe Biden et de Kamala Harris avec la complicité de Macron. Il faut rappeler que la proximité de Kamala Harris, puisqu'elle est très proche, elle est considérée comme faisant partie de la famille du fils de Soros, Alexandre, qui vit à Bruxelles.
Merci pour vos explications. Monsieur Michel, restez avec nous. Alors, maître Chami, vous avez évoqué la question palestinienne sur laquelle les autorités françaises ne s'étalent jamais. Il y a également le dossier syrien. Il y a également d'autres dossiers dans la région dans lesquels la France est impliquée directement ou indirectement. Donc, on en voit de plus en plus les traces de cette politique de deux poids, deux mesures. Mais maître, d'où vient cette politique de deux poids, deux mesures? N'est-elle pas en quelque sorte liée au suivisme aveuglé de la France des politiques américaines?
n'y a pas que ça. Il y a une, moi, j'appelle ça de l'impérialisme international, parce que le passé colonial de la France et l'impérialisme américain, j'ai envie de dire, se rejoignent, parce que le passé colonial ne supportait pas qu'à un moment donné, ces pays anciennement colonisés puissent s'émanciper, et par la même occasion, tout mouvement d'émancipation à travers le monde est toujours contrecarré par les actions des anciennes forces coloniales, mais également de l'impérialisme américain. Regardons, il n'y a pas longtemps, ce qui se passait en Afrique du Sud. L'ANC était considérée comme une organisation terroriste, alors que c'était un mouvement de libération et un mouvement pour permettre aux peuples autochtones de s'émanciper, de retrouver sa place sur son propre territoire, au détriment des racistes qui étaient installés ou qui sont toujours d'ailleurs sur place. Et vous prenez ce qui se passe également par rapport aux juntes militaires en Amérique du Sud. Il y a un certain nombre de pays, je dirais le plus connu c'était le Chili, qui était soutenu aussi bien par l'Angleterre que par les États-Unis. Vous prenez l'Afrique du Sud, qui était soutenue par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis et par un certain nombre de pays européens, alors que par ailleurs ils parlaient des droits de l'homme, comme si l'homme change, je dirais, de consistance à partir du changement de couleur ou du changement de région. C'est ça la réalité. Et la France est toujours dans cette même ligne. Évidemment, le fait qu'elle devienne plus otanisée, si j'ose dire, et ça aggrave son cas, en tout cas ça aggrave son politique étrangère, et ça permet de l'entendre moins, parce que quand vous faites cette politique de deux poids, deux mesures, vous êtes plus audible et vous êtes surtout plus crédible. Et encore pire, quand vous pratiquez cette même politique au sein de votre population, c'est-à-dire ce qui est les politiciens français tiennent même les deux langages, y compris par rapport au port du voile. En France, vous avez ceux qui sont pour, vous avez ceux qui sont contre. Alors il faudrait peut-être qu'on se décide, est-ce que c'est un terme qui doit valoir une valeur universelle pour permettre à chacun de décider de ce qu'il veut faire par rapport au port du voile ou par rapport à sa pratique religieuse, ou bien c'est une pratique qui doit être décidée par l'État, et à ce moment-là, on n'est plus dans la laïcité. Et le terme laïcité devient un terme dévoyé, y compris en Occident. Et c'est ça que je trouve déplorable. C'est-à-dire qu'on perd tout, on entraîne en quelque sorte le discrédit par rapport à l'ensemble des valeurs considérées comme des valeurs occidentales, qui étaient les valeurs qui étaient censées être les valeurs de droits de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est les droits de l'homme quand c'est sélectif? Et nous y sommes là, nous y sommes par rapport à l'affaire iranienne et également nous y sommes par rapport à l'affaire en Syrie, en Irak, par rapport à l'Iran, mais par rapport même à nos propres citoyens ici en France, nous pratiquons indiscutablement la question des droits de l'homme, je dirais, avec deux poids, deux mesures. Regardez voir actuellement comment les grèves sont matées. C'est-à-dire on réquisitionne les grévistes pour les empêcher d'exercer le droit de grève. C'est ça la réalité en France. C'est-à-dire vous prenez ceux qui sont grévistes, qui s'expriment, qui pratiquent un droit constitutionnel que moi personnellement je soutiens, et j'accompagne les grévistes et j'accompagne les syndicats depuis maintenant 30 ans, et je constate qu'aujourd'hui, la limitation au point d'éradiquer le droit de grève est actuellement pratiquée en France avec le soutien de l'appareil judiciaire qui a perdu toute autonomie par rapport au pouvoir judiciaire, par rapport au pouvoir politique, qui est prévu par l'article 150 de la Constitution. La République n'existe plus à partir du moment où on ne pratique plus la séparation des pouvoirs. Et nous y sommes, il n'y a plus de séparation de pouvoir, parce que quand le pouvoir judiciaire ou l'autorité judiciaire est de connivence avec le pouvoir politique, cela pose problème par rapport même à l'existence de la République. Et nous y sommes encore une fois. C'est ça que je trouve déplorable, et on devient encore moins crédible pour donner des leçons aux peuples voisins ou aux peuples plus éloignés en leur donnant des idées sur les droits de l'homme. Mais quels droits de l'homme, à partir du moment où nous, on ne les pratique pas de manière cohérente ici dans notre propre pays?
Merci à vous, maître. Restez en ligne. Monsieur Michel, à votre avis, quels seront alors les objectifs de ces ingérences? Est-ce qu'il y a là un objectif concernant le déclenchement d'une révolution de couleur en Iran?
Écoutez, l'objectif avoué, c'est de déclencher une révolution de couleurs, et elle est préparée depuis plus de 6 mois. L'hypocrisie de l'Occident en général, la France n'est pas une exception, mais elle est similaire à l'Europe occidentale. Nous avons 3 grands exemples ces jours-ci. Le 1er octobre, il y avait le 5e anniversaire de l'écrasement par la politique néo-franquiste de Madrid, de la République de Catalogne. Les Catalans avaient voté à plusieurs millions, majoritairement, démocratiquement, pour une république autonome. Elle a été écrasée par la répression, par Madrid avec l'aide de Bruxelles et de Washington. Et les dirigeants de la Catalogne aujourd'hui, ils sont en prison ou en exil. Le 2e exemple, c'est aux États-Unis. Les Noirs africains sont majoritaires à Détroit. Ils ont déclaré l'indépendance de la République autonome de Détroit. Le régime américain a dépouillé la garde nationale et le FBI. Et les Noirs américains, qui se définissent comme afro-descendants et plus du tout comme afro-américains, ils ont dû organiser des milices armées. Vous savez que c'est légal aux États-Unis. Le 3e exemple, évidemment, on soutient les manifestants aujourd'hui contre Téhéran qui sont encadrés par des agents provocateurs. Mais en même temps, on ne soutient pas les massacres de musulmans. Hier, Pékin a sorti un communiqué, il faut le citer, il se résume en une phrase. Il disait l'OTAN, les États-Unis, l'Union européenne se disent préoccupés par le sort des musulmans chinois au Xinjiang. Mais les massacres de musulmans faits par les États-Unis et l'OTAN en Irak, en Syrie et en Afghanistan, on ne s'en préoccupe pas. Voilà ce qui se passe. Notre pays est victime, évidemment, d'une tentative de ce que les Américains appellent le régime tchèque. Il suffit d'aller sur le plateau des médias de l'OTAN en France. Tout est encadré par des politiciens iraniens en exil, monarchistes, anti-iraniens, etc. Ce sont ceux-là qui ont 100% de la parole. Les pro-iraniens, les gens qui défendent notre pays, n'ont pas une seule invitation. C'est la même chose qui se passe dans leur comparution aujourd'hui.
Merci à vous, M. Michel. Restez en ligne. Alors, maître, quelles seront les prochaines étapes de ces ingérences, de ces tentatives de déstabilisation en Iran? À quoi, à votre avis, devrait-on s'attendre, vu le passif des politiques françaises dans d'autres pays de la région?
Vous savez, la France est embourbée, si je veux dire, dans ce projet de l'OTAN. Elle n'arrive pas à avoir son indépendance. Tant que la France n'est pas sortie ne sera pas sortie de l'OTAN, n'aura pas pris ses distances par rapport à la politique américaine, n'aura pas pris la distance par rapport à cette hégémonie mondiale de l'unilatéralisme que veulent pratiquer les États-Unis, évidemment, la France n'aura plus, je dirais, de parole crédible par rapport au monde. Que ce soit par rapport à l'Iran, mais par rapport au peuple du monde. Regardez voir, aujourd'hui, même les Africains en ont marre, les distances qui ont été prises par rapport à un certain nombre de pays africains à l'égard de la France, c'est effarant, c'est-à-dire les Français, en tout cas les politiciens en France, s'ils ne se posent pas aujourd'hui la question par rapport à leur politique et par rapport à leur avenir et par rapport à leur stratégie dans cette zone, particulièrement, à mon avis, cruciale, stratégiquement important, ça veut dire qu'il devrait changer de métier parce que c'est le cœur de ce qui se passe dans le monde à venir. Ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie, ce qui se passera dans dans notre monde, pour ne pas dire sur notre globe, dans les prochaines années, parce que l'Europe est vieillissante et si elle n'a pas de perspective à venir, elle finira par mourir. Elle finira par mourir démographiquement, mais elle pourra mourir et aussi bien sur le plan civilisationnel, parce que la civilisation européenne finira par disparaître par justement ce que j'appellerais moi la noyade presque programmée face à la civilisation américaine, si tant est qu'on puisse parler de civilisation américaine. En tout cas, le modèle américain prendra le dessus, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur tous les plans. Aujourd'hui, la politique américaine, ou en tout cas le modèle américain, est en train de prendre le dessus par rapport à tout, et regardez voir ce qui se passe, le modèle des réseaux sociaux, regardez voir les lectures qui sont imposées, plus ou moins, même le type, si je veux dire, de comportement sociétal, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté, et toujours cette opposition presque radicale entre deux franges de la population, entre ceux qui sont considérés comme des complotistes et ceux qui veulent imposer le diktat de leur vision sur les autres. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui sont posées actuellement et qui finiront par créer ce que j'appellerais le chaos occidental. Et ce chaos occidental, à mon avis, nous pend au nez et on ne peut pas l'éviter tant qu'on n'aura pas changé de politique, aussi bien en interne qu'à sur le plan extérieur.
Merci à vous. Monsieur Michel, nous avons une minute devant nous. Le mot de la fin est à vous.
Je voudrais rejoindre Maître Chabi. Le danger pour l'Europe, ce sont les États-Unis. Le grand philosophe allemand Sulzbacher disait que l'Amérique était passée de la barbarie à la décadence sans avoir connu la civilisation. C'est ce monde-là qui veut détruire le monde européen. Et malheureusement, les politiciens atlantistes de l'Europe qui jouent la politique américaine, ils jouent actuellement le rôle du méchant vis-à-vis des restes des peuples du monde. Ils se font haïr en Afrique, en Asie, en Amérique latine pour le compte des Américains. Il faut que tout cela s'arrête.
Merci beaucoup. Merci à vous deux, Maître Chami, André Chami, juriste international, Luc Michel, géopoliticien, a été avec nous pour cette émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette édition de débat. Vous pourriez également revoir toutes nos émissions, également ce
merci
débat sur notre site web qui était à l'adresse suivante french.presstv.ir. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.
L'Iran est son septième art. L'industrie cinématographique voit le jour en Iran dès 1900. Quand la cour rapporte un cinématographe de France. Une production spécifiquement iranienne se développe alors tout au long du XXe siècle. En 1929, la première production cinématographique iranienne fut réalisée par Ovanes Oganians, intitulée « Abi et Rabi ». Ce film muet remportera un grand succès. C'était malgré tout insuffisant pour rivaliser avec les standards du cinéma européen. Ce fut seulement en 1932 qu'Abdel Hossein Sepahanta fit paraître le premier film sonore de l'histoire du cinéma iranien, Dortare Lor, La fille Lor. Pendant longtemps, le cinéma iranien continua à suivre le modèle des films européens sans tenir compte des spécificités nationales. Dans les années 40, le cinéma vécut une période d'épanouissement en Iran et devint plus populaire, mais sans être pour autant capable de relever le défi de l'originalité. Ce ne fut qu'avec l'arrivée des grandes figures du cinéma iranien comme Samuel Khachikian, Hushang Kavosi, Ebrahim Golestan, Sohrab Shahid Sales, Ali Hatami et Fereydoun Rahnama que les films iraniens commencèrent à présenter aux spectateurs des récits filmés typiquement iraniens et à se faire connaître à l'étranger. Les aspects socioculturels purement iraniens et la finesse de ses réalisateurs ont petit à petit fait du cinéma iranien un cinéma d'auteur dont l'Occident devint très vite friand et qui a pu se distinguer ainsi du reste de la production mondiale. Ce mouvement fut plus tard complété par un nouveau courant des années 40, représenté notamment par Dariush Mehrjoui, Masoud Kimiaï, Bahram Beyzaï et par de jeunes cinéastes assidus comme Majid Majidi, Ebrahim Hatamikia et Abolfazl Jalili. C'est ainsi que le cinéma iranien accéda aux festivals internationaux
et remporta de nombreux prix de réalisation grâce, entre autres, à l'originalité des sujets traités et à l'acuité du regard des metteurs en scène et des scénaristes. À partir des années 1990, le cinéma iranien connaît une reconnaissance croissante sur la scène internationale. Des films iraniens obtiennent fréquemment des récompenses dans les festivals internationaux et des festivals voués au cinéma iranien se tiennent régulièrement dans le monde. Chers amis auditeurs, avec cette introduction, nous vous annonçons que dès cette semaine, une série de programmes vous présentera le cinéma iranien dans toutes ses dimensions sociologiques, culturelles, historiques, psychologiques, etc. Merci de votre fidélité. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. L'histoire de la production cinématographique en Iran remonte à plus d'un siècle. En 1929, on voit l'apparition du premier film iranien, Abi et Rabi, réalisé par Vanes Oghanians. Et le premier film sonore de l'histoire du cinéma iranien s'appelle Dortare Lor, La fille Lor, réalisé en 1932 par Abdolhossein Sepant. Ce symbole de modernité reçoit un accueil enthousiaste en Iran dès son arrivée et compte rapidement parmi les arts les plus populaires. Étant donné que le cinéma et la société exercent des influences mutuelles l'un sur l'autre, nous allons ici donner un aperçu sur la sociologie du cinéma iranien de son arrivée jusqu'à nos jours, notamment en examinant l'influence des événements politiques et sociaux sur les productions cinématographiques iraniennes selon une approche chronologique. Le cinéma de Reza Khan, Khan Baba, 1925-1937. Khan Baba Mohtazedi, un diplomate de la cour de Reza Khan, Pahlavi, est considéré comme le porte-drapeau du cinéma iranien de cette période. De retour d'Europe, il filme l'Assemblée constituante et l'Assemblée nationale. De plus, le 12 décembre 1925, il filme avec sa caméra la cérémonie de prestation de serment de Reza Khan Pahlavi. Il filme également l'inauguration de grands projets nationaux de son temps, dont le chemin de fer, les ponts et les routes, la Banque nationale, l'Université de Téhéran, l'Académie de la langue persane, etc. À l'époque, après l'échec de la révolution constitutionnelle de 1906, la deuxième phase de la modernisation du pays est entamée avec l'arrivée au pouvoir de Reza Khan, qui régna de 1925 à 1941. Le régime autoritaire et brutal de Reza Khan tente d'accélérer les réformes sociales, politiques et économiques. Parallèlement, ce régime développe les infrastructures, et plus particulièrement le chemin de fer, le réseau des routes nationales, le réseau électrique et télégraphique, etc. Le rôle principal du cinéma de cette époque est de justifier les tentatives du système politique en relatant les développements économiques et sociaux. Les films réalisés de cette période visent à servir de caisse de résonance à la propagande afin de présenter une figure idéale du roi. Suivant cette démarche, les films critiques sont interdits par la censure. C'est le cas du documentaire Alaf, l'herbe, qui porte sur la vie traditionnelle de la tribu Bakhtiari et dont la diffusion publique reste non autorisée. En revanche, le documentaire Rah Ahan, Chemin de fer, est grandement admiré par le roi Pahlavi. Parmi les films les plus vus de cette période, on peut surtout citer Monsieur l'acteur du cinéma, 1932, La fille Lor et Capricieux, 1924. Les particularités du cinéma de cette époque sont les suivantes. La plupart des films illustrent les problèmes de la modernisation du pays et les paradoxes entre la modernité et la tradition. Les femmes sont autorisées à entrer dans les salles de cinéma. Le premier règlement du cinéma iranien est approuvé. Le cinéma de Nezam Vafa, 1947-1953. Nezam Vafa Arani, 1887-1964, est un poète écrivain et scénariste iranien, dont le scénario intitulé « La tempête de la vie », réalisé en 1948 par Ali Daria Beki, remporte un grand succès. La démarche poétique du film est suivie par un bon nombre de films de ce genre. Le prisonnier d'Amir, 1948, et Honto, 1949, réalisé par Ismail Kouchan. Écrasant, 1951, réalisé par Ebrahim Moradi. Le vagabond, 1952, réalisé par Mehdi Firouzi. Et Combat avec le diable, 1952, réalisé par Hossein Madani. Tous ces films sont produits dans une période qui correspond au passage de la tradition à la modernité. Et de ce fait, on peut y voir un champ de contraste entre ville et campagne, villageois et urbain. En outre, le cinéma de cette époque est influencé par la Seconde Guerre mondiale et les années d'occupation de l'Iran. Avec la chute du gouvernement de Reza Khan en 1941, les tensions sociales s'accroissent et le cinéma devient alors un lieu de refuge et de consolation pour un peuple déçu. Le contexte est donc propice à la naissance d'un cinéma de fantaisie basé sur l'imaginaire et le merveilleux, mais qui ne dure pas longtemps. Au cours de cette période, deux événements importants dans l'histoire du cinéma iranien se déroulent. Tout d'abord, le début du doublage de films étrangers en Iran, et ensuite, en 1950, la compilation et la mise en place du règlement dit « Anche Nawayat Goft », ce qu'on ne doit pas dire. Avec le doublage des films étrangers, moralement décadents en Iran, les spectateurs et les réalisateurs de films s'intéressent de plus en plus au cinéma. Mais les restrictions ont un lourd impact sur les activités des cinéastes, restrictions qui vont donner naissance au cinéma conservateur de la décennie suivante. Dès le renversement du gouvernement de Mossadegh en 1953, la société iranienne subit une importante crise économique et politique. Et le cinéma de cette période prend ses distances avec la réalité sociale. Les films mettent alors souvent en scène la banalité, des clichés et des thèmes fictifs. Le cinéma de basse qualité de cette époque s'accompagne de certains événements importants, dont l'inauguration de la télévision iranienne en 1958 et de la production de films en couleur. Le premier, intitulé « Tourbillon d'eau » et réalisé par Hushang Mahboubian, sort en 1953. En outre, dès les années 50, on commence aussi à traduire et publier des articles et critiques du Cahier du cinéma. Ceci favorisant l'apparition d'une critique cinématographique dans le cinéma iranien.
Thank you.